16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. C'est avec beaucoup de plaisir et même une pointe d'excitation que je vous accueille dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. À mes côtés, lui aussi est très excité. Je le vois parce que lorsqu'il est excité, il suit un peu de la moustache. Et c'est clairement le cas maintenant. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, comme quoi à l'orée de la soixantaine, votre vision reste exceptionnelle. Espérons qu'il en soit de même pour votre miction. Effectivement, oui.
Ah non, maintenant, on sort les armes.
Une semaine après, on se connaît maintenant Stéphane. On est cul et chemise, on a vu l'origine de l'expression l'autre jour. Effectivement, je sue sensiblement de la moustache, la joie de vous retrouver pour deux heures d'histoire palpitante et rieuse. Comme toujours, une thématique reliant trois personnages évoluant dans des époques différentes. Notre fil rouge aujourd'hui, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent. Une émission féerique en perspective, même si entre Nicolas Fouquet, John Davison Rockefeller et Liliane Bettencourt, dont on vous raconte les destins aujourd'hui, certains ont quand même vécu, on le verra, plus heureux que d'autres.
Oui Mathieu, dans un instant, je vais vous raconter l'histoire de Nicolas Fouquet. L'histoire d'une ascension vertigineuse suivie d'une chute cruelle. Tragique écho à votre propre carrière, mais d'abord, citons les grands rendez-vous qui vous attendent dans cette émission.
Mieux,
Comme chaque jour, notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait pénétrer sur la pointe des pieds, bien sûr, dans l'intimité de l'histoire. Olivier Pouls, notre expert culinaire, n'ira pas avec le dos de la cuillère pour nous raconter aujourd'hui l'histoire du caviar.
Un de vos mets préférés.
Non.
On va jouer aussi.
Je digère mal.
Avec le quiz qui apporte une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que l'histoire n'a vraiment aucun secret pour vous, Stéphane. Ce programme me donne le tournis, à moins que ce soit encore la sangria d'hier qui ne passe pas, je ne sais pas. En tout cas, il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec ce bond dans le passé qu'on effectue chaque après-midi vers 16h05. On remonte aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui fait désormais partie de notre quotidien et qu'il faut manipuler avec précaution sous peine lorsqu'on est un homme de connaître quelques cruelles déconvenues. Stéphane en a fait les frais tout à l'heure en sortant des toilettes. Anne Roumanoff qui passait dans le couloir à ce moment-là l'a pris pour elle. Nouveau bad buzz en perspective sur Twitter. Bref, aujourd'hui on parle de ce dispositif à la fois pratique et dangereux dont on pourrait dire, au propre comme au figuré, qu'il est à double tranchant. La fermeture éclair.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, un programme riche parce qu'on parle des riches aujourd'hui. Mais avant de lancer en l'air des liasses de billets, lui va faire le sien de billets. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour.
Chaque jour, vous remontez pour nous jusqu'aux origines d'un objet de notre quotidien. Aujourd'hui, c'est la fête du zip, puisque vous nous racontez les origines de la fermeture éclair.
Tout à fait. Moi, je me souviens parfaitement du moment où j'ai pris conscience du pouvoir des fermetures éclair. J'avais 3 ans. J'étais avec ma mère, avenue de Saint-Ouen à Paris, et j'avais envie de faire pipi. Alors ma mère a trouvé des toilettes, et comme ça se passe souvent quand on est petit, elle m'a aidé. Et quand j'ai fini, elle n'a pas fait attention, et elle a remonté ma braguette sans s'assurer que le passage était libre. La douleur, c'était il y a 35 ans, et je la ressens encore. Je vous ai dit que c'était le moment où j'avais pris conscience du pouvoir des fermetures éclair. C'est vrai. Mais j'ai pris conscience, en fait, de beaucoup plus que cela. J'ai compris que la vie n'était pas que joie et qu'elle pouvait réserver des épreuves profondes. Et je pense donc que, dans une certaine mesure, ma personnalité a été façonnée par ce traumatisme originel de la fermeture éclair. Mais je suis aussi obligé de reconnaître que, quand rien n'est coincé dedans, la fermeture éclair, c'est quand même génial. Non seulement parce que ça va vachement plus vite que toutes les alternatives disponibles, à part peut-être le velcro, mais c'est pas encore très socialement accepté dans l'habillement, mais surtout parce que la fermeture éclair, c'est très chargé symboliquement. Rien que le son d'une fermeture éclair, écoutez.
Ça, c'est une moto, ça. C'est une fermeture éclair. Ah oui, ah !
Qu'est-ce que ça vous évoque,
ça ? Oui, ça nous évoque pas mal de choses, mais...
Mais oui, moi, ça m'évoque un monde de sensualité réussi. Voilà, c'est ça. Tout ça avec juste le bruit de petits crochets qui s'assemblent sous la pression d'une glissière en métal. Et voilà, ça me fait cet effet-là. Mais alors, d'où ça vient, la fermeture éclair ? Et il y avait quoi avant ? Eh bien, pendant des millénaires, en fait, on attachait les vêtements, en gros, de deux façons. Soit on les attachait pas, d'ailleurs, on se drapait simplement dedans.
Les Romains, les Grecs.
Soit on utilisait des broches. Et puis, on a inventé successivement les lacets, qui marchent pas mal, les boutons, au XIIIe siècle, super tard quand même. Hein,
des boutons au XIIIe siècle.
Ouais, super tard. Il y avait des boutons, mais c'était juste décoratif. C'est au XIIIe siècle qu'on a eu l'idée de « Ah tiens, si on les mettait dans une fente !» Et ça, quand même pas, ça paraît quand même assez simple comme invention. C'est-à-dire que
moi, vous l'auriez eu.
Ah, mais si ça avait été moi, je l'aurais inventé avant. Hein, c'est vrai.
On aurait gagné du temps.
Et au XIVe siècle est apparu en Angleterre une sorte d'ancêtre de la fermeture éclair, avec d'un côté de gros crochets et de l'autre de gros anneaux. Mais il fallait les assembler un à un à la main. Ce qui était super relou, c'était une sorte de version en fait pas du tout éclair de la fermeture éclair. Et après, en gros, plus
c'était la fermeture suisse, on l'appelait.
Fermeture suisse. Très bon. Et après, en gros, plus rien pendant 4 siècles. Entre-temps, on a inventé la machine à vapeur, l'ampoule électrique, le téléphone, le moteur à explosion. Mais quand il s'agissait de fermer ses vêtements, eh ben, on était encore dans la même merde primitive qu'au Moyen-Âge. Mais un jour, en 1843, il y a un petit garçon qui est né à Antwerp, dans l'État de New York. Ce petit garçon, il s'appelait Whitcomb Judson. On ne sait pas grand-chose de lui. On sait juste qu'une fois adulte, il a fait la guerre de sécession dans le camp des Gentils. Ah. Il a été blessé et puis vers la quarantaine, il a commencé à inventer des trucs. Et l'une des choses qu'il a inventées, c'est une sorte de proto-fermeture éclair destinée principalement à fermer les chaussures des femmes. Parce que les chaussures des femmes à l'époque, c'était souvent 20-30 boutons, hein, donc il fallait compter une demi-journée, c'était chiant. Et en 1893, donc, Whitcomb Judson, a déposé un brevet que j'ai amené ici, je vous le fais passer. Alors,
montrez-moi ça, voilà. Je vais vérifier l'authenticité de ce document.
Vous voyez ? Ça a quand même déjà vachement la gueule.
Ça a l'air authentique, Stéphane. C'est un professionnel qui vous parle.
Vous voyez l'écriture, ça sent la fin du 19e siècle.
Oui, en tout cas, si c'est un faux, il est bien réalisé.
Et voilà, on voit que ça a quand même déjà complètement la gueule d'une fermeture éclair.
Oui.
Le seul problème avec l'invention de Whitcomb Judson, c'est que elle avait tendance, la fermeture éclair, à s'ouvrir toute seule au moindre mouvement.
Encore le cas de certaines fermetures éclair cet été, que de regards insistants. Un jour, je me balade au marché de Saint-Tropez pour ne pas le citer. Et je sens que les gens regardent en anatomie. Je me dis, mon Dieu, je dois être bien pourvu. Et puis en fait, pas du tout. J'ai réalisé que ma fermeture éclair, elle était descendue spontanément. Parce
spontanément,
que j'ai remarqué, elle était distendue.
Mais oui, mais
défaut de fabrication.
Mais voilà, défaut de fabrication. En tout cas, sur celle de Whitcomb Judson, c'était systématique. Et donc, ça limitait bien sûr énormément l'intérêt de l'objet. Et c'est un immigré suédois, Gédéon Sundback, aux États-Unis, qui, quelques années après, a repris le concept et qui l'a amélioré en rajoutant plus dedans et en donnant donc aux fermetures éclair leur apparence actuelle. Mais il y avait quand même encore quelques réticences de la société à accepter la fermeture éclair. Pourquoi ? Eh bien, en partie parce que la fermeture éclair, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est complètement porno, en fait.
Et ça facilite tout.
Ça plaît pas aux puritains. Je veux dire, c'est une sorte d'ouverture facile. Sauf qu'à la place des chips, c'est des gens. Et s'il y a une chose que j'ai appris sur les puritains, c'est qu'ils aiment pas beaucoup qu'on puisse ouvrir les gens aussi facilement que des paquets de chips.
C'est un bon résumé des puritains de tout temps.
Mais bon, petit à petit, la fermeture éclair s'est tout de même imposée, en partie parce qu'elle a été adoptée par l'armée américaine. Et aujourd'hui, il s'en vend des milliards. Une bonne partie d'ailleurs fabriquée par une seule entreprise japonaise qui détient 40% du marché et qui s'appelle YKK.
Ah oui, je l'ai déjà vu ça.
Il y a de fortes chances d'ailleurs, Mathieu Stéphane, que le pantalon que vous portez aujourd'hui est une fermeture YKK. Vous voulez vérifier ?
Moi, j'ai des boutons comme au 13e siècle.
Je viens de vérifier parce que j'ai mis un jean à boutons aussi.
Ah bah oui. Mais alors, vous n'avez même pas de fermeture éclair. Alors, vous, chez vous, oui, chers auditeurs, vérifiez
que c'est une YKK.
Il y a de fortes chances que votre fermeture éclair, ce soit une YKK. Merci beaucoup.
Comme tous les jours, c'était passionnant. Ouais. Merci, David. Merci, Lopez.
Europe 1.
À suivre, une rente annuelle de 12 millions. Une gentilhommière à Saint-Mandé, un château Renaissance de 3500 m² et 60 hectares de jardin paysager.
Une honnête synthèse de votre déclaration de patrimoine, Stéphane.
Non, franchement. Non, c'est celle de Nicolas Fouquet, célèbre surintendant des finances de Louis XIV, dont nous allons vous raconter l'irrésistible ascension et la chute. Mais chute.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Programme très riche aujourd'hui dans Historiquement vôtre, puisque nous évoquons ces figures de l'histoire qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent.
Alors là, Stéphane, je vous aurais bien aidé sur ce coup, mais étant personnellement à moins 3000 sur mon compte courant, alors que vous, il y a, je crois savoir, l'équivalent du PIB du Benelux sur votre plan épargne-action, je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse la parole. Vous êtes plus familier du concept de richesse que moi.
Même pas vrai. Non, mais c'est fou. Non, mais franchement, je ne peux pas vous laisser dire des âneries pareilles.
Surtout que vous avez dit tout à l'heure que vous ne me tacliez pas sur mon côté suisse.
Oui.
Donc
on déclare une trêve.
On fait un traité.
On oublie la Suisse et le Luxembourg.
Mais on le garde dans un coin de notre tête. Ouais. On enchaîne.
Historiquement vôtre. Le récit.
Si je vous dis Fouquet,
excellente oui. brasserie des Champs-Élysées où vous avez votre ronde serviette.
Non, non, j'aimerais vous parler d'un homme qui est monté si haut qu'il ne pouvait redescendre que très bas. Non, aïe. Nicolas Fouquet, dont on va parler, c'est le grand argentier du règne de Louis XIV. Et l'argent, Fouquet a baigné très tôt dedans. Il est né en 1615 dans une famille bourgeoise. Son père, armateur breton, reconverti dans la magistrature, est devenu noble par l'acquisition de ce qu'on appelait alors des charges anoblissantes.
Ça n'existe plus, ça, on ne peut pas devenir noble aujourd'hui, si on a envie, comme ça, par coquetterie.
On peut l'être en Angleterre, on peut l'être en Belgique. Si vous avez, par exemple, Annie Cordy est devenue baronne belge.
Très bon exemple.
Amélie Nothomb aussi.
Sir Elton John en Angleterre.
Sir Elton, voilà. C'est vos mérites qui vous permettent.
C'est par le mérite.
Par le mérite aujourd'hui. Oui.
C'est marrant, mais c'est bien d'ailleurs.
Mais
ça,
c'est plutôt
fait.
Bien, oui, c'est la forme moderne de l'annoblissement. Donc ce sont des charges anoblissantes qui ont fait de Fouquet un noble. Destiné à l'église, Fouquet se rebelle à l'âge de 16 ans et refuse d'entrer dans les ordres. Son père s'incline et lui achète une charge de conseiller au Parlement de Metz. Débute alors une ascension exceptionnelle dans la magistrature. En 1641, Fouquet obtient sa licence de droit. L'année d'après, il devient intendant de justice, police et finances auprès de l'armée du maréchal Châtillon en Flandre. Puis dans le Dauphiné, en Picardie et enfin, aux joies pour lui, à Paris. Où il devient gouverneur de l'Île-de-France.
Vous maîtrisez si bien toutes les régions, vous auriez pu présenter la météo, Stéphane.
J'aurais adoré. Une carrière est faite de surprises, Mathieu, vous le savez, vous le verrez. Regardez Fouquet.
Je le vis actuellement, Stéphane.
Lorsque la Fronde qui secoue le royaume gouverné par la régente Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, éclate, Fouquet se met au service de Mazarin. Le cardinal offre à Fouquet le poste tant convoité de premier ministre du roi Louis XIV, qui le prend sous son aile et le nomme, en février 1653, surintendant des finances. À 38 ans à peine, Fouquet exerce alors la plus haute fonction à laquelle il peut prétendre, grand argentier de l'État. Dans un état d'un pays en guerre qui n'a pas d'argent, qui vit à crédit depuis 1635 et s'endette largement, Fouquet se crée un vaste réseau parmi les gens de la finance qui lui font confiance. Il utilise la fortune de son père, héritée en 1640, et la dot de son épouse pour prêter à l'État à des taux invraisemblables qui atteignent 30, 40, voire 50% et qui donc ruine encore plus l'État.
C'est l'inventeur de Sofinco, Stéphane.
Mais si Fouquet apparaît comme l'homme le plus influent et le plus riche du royaume, il va lui aussi perdre de l'argent. Il joue les riches, mais il s'endette aussi beaucoup pour le royaume, mais aussi pour ses dépenses personnelles. Il doit hypothéquer ses biens.
Il a participé d'ailleurs, je crois, à l'émission de Sophie d'avant, à l'époque. Non, c'était pas...
Non, il n'avait rien à vendre. En tout cas, pas d'antiquité. Non, il faisait pas encore les brocantes. Tout est possible pour Fouquet, Mathieu, tout. Riche, puissant, il s'imagine Premier ministre à la mort de Mazarin. Mais Mazarin recommande plutôt Jean-Baptiste Colbert au roi. Colbert, l'homme à qui il a confié la gestion de sa fortune 10 ans plus tôt. Et c'est l'ennemi juré de Fouquet. À la question « Qui succède au cardinal italien ?», la réponse est simple, personne. Et oui, à la mort de Mazarin, c'est un véritable coup de théâtre. Louis XIV, 22 ans, décide de prendre seul les rênes du pouvoir et supprime donc la fonction de Premier ministre, c'est la monarchie absolue. Le calculateur Colbert, fou de jalousie face à la réussite de Fouquet, l'accuse auprès du roi d'avoir détourné des millions pour déclencher sa disgrâce. Évidemment, il ne dit rien au roi de ses propres opérations financières réalisées pour son compte et celui de Mazarin. Louis XIV charge alors Colbert d'examiner les comptes de Fouquet. Embrumé par son succès et son prestige social, Fouquet ne se doute de rien. Malgré les avertissements de ses amis, il n'a aucune idée de ce qui se trame derrière son dos contre lui. C'est donc avec une extrême maladresse qu'il continue de vouloir épater la galerie.
Parlez bien de Fouquet là, Stéphane, toujours.
Ah oui, de qui d'autre voulez-vous que je parle ?
Non, je sais pas, ce que vous découvrez m'a fait penser à quelqu'un.
Ah, sans le savoir, Fouquet va signer son arrêt de mort le 17 août 1661. Ce soir-là, Fouquet est atteint par la folie des grandeurs en donnant une fête somptueuse organisée au château de Vaux-le-Vicomte où le roi et sa cour sont conviés.
Parce qu'il le vaut bien.
Oh, c'est drôle, Mathieu, c'est très très
drôle.
C'est
un indice sur notre prochain personnage.
Oui. Ce château, Fouquet l'a acquis dans un piteux état en février 1641. Situé à mi-chemin entre les résidences royales de Vincennes et de Fontainebleau, il en a fait une demeure de prestige. Pour les travaux, il a fait appel aux meilleurs de l'époque, un trio dont la réputation est en train de monter. L'architecte Louis Le Vau, le paysagiste André Le Nôtre et le peintre Charles Lebrun. Le résultat, modèle de l'architecture classique française, est grandiose et éblouit le roi, qui décidera de faire appel au service de ce même trio pour son château de Versailles, bientôt en construction. À 6h du soir, Louis XIV arrive en compagnie de sa mère, la reine Anne d'Autriche, et de quelques 600 courtisans. Les calèches circulent entre les magistraux parterrés de fleurs, tandis que d'imposants jets d'eau jaillissent des bassins et fontaines. Le spectacle est grandiose. Les invités sont répartis dans différentes pièces du château pour consommer un ambigu. C'est un buffet sur lequel sont présentés simultanément tous les plats, du salé au sucré.
Ça s'appelle un brunch, Stéphane.
Oui, oui, ça s'appelle un buffet. Oui. Toute la cour est servie dans de très luxueux couverts en émail, un luxe inaccessible pour le roi lui-même.
Ça a l'air très sympa tout ça, mais vous savez ce qu'on dit, une bonne soirée tient aussi à un bon DJ. Il y avait qui à l'époque ?
Il y avait Molière. Molière qui était ami de Fouquet.
Mais Molière était DJ ?
Non, Mathieu, mais Molière a créé une pièce inédite pour cette soirée. C'est pas une pièce montée, hein, c'est Les Fâcheux, qui rencontre un vif succès auprès du public et du roi. Des intermèdes musicaux composés par Lully retentissent entre les actes. Le bouquet final de la soirée est un gigantesque feu d'artifice, œuvre du maître italien en la matière Torelli. Tout est réuni pour que la soirée soit une vraie réussite. Mais il en sera autrement pour Fouquet, qui n'a fait là qu'attiser la colère du roi et qui va faire les frais de sa propre démesure.
C'est pour ça que je vous ai dit, Stéphane, 1600 personnes, dont la reine Elisabeth au cocktail de rentrée d'Historiquement Vôtre, qui plus est à Versailles, dans la Galerie des Glaces privatisée pour l'occasion, ce n'est pas une bonne idée, ça ne va faire qu'attiser les jalousies. Faisons plutôt ça au Buffalo Grill, soyons simples, c'est moi qui invite.
D'accord.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Il était richissime, il était puissant, il avait tout. Sauf qu'un soir, il a donné une fête si dispendieuse qu'elle a marqué le début de sa chute.
Vous nous racontez aujourd'hui l'incroyable destin de Carlos Ghosn.
Non, Mathieu, mais enfin, on n'est pas très loin. Celui de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, qui symbolise à lui seul la grandeur et la décadence. Retour à la soirée au château de Vaux-le-Vicomte. Vous connaissez le château de Vaux-le-Vicomte ?
Alors,
c'est très très beau.
Il se trouve que je le connais, j'ai emmené mon fils. C'est magnifique.
Et le vendredi, les enfants sont déguisés.
Ils peuvent accéder au déguisement, effectivement. Et c'est un château, c'est très bien pensé.
Ouais. C'est là que tout a basculé. Si Louis XIV avait déjà prévu de se débarrasser de cet encombrant personnage, la fête de Vaux-le-Vicomte a scellé le sort de Fouquet. D'où les mots restés célèbres de Voltaire. Le 17 août à 6h du soir, Fouquet était le roi de France. À 2h du matin, il n'était plus rien. À voler trop près du roi soleil, Fouquet s'est brûlé les ailes.
Patricia Cass l'a expliqué différemment, si mes souvenirs sont bons.
Entrez dans la lumière comme un insecte fou.
Non, je ne suis pas sûr que ce soit de lui dont elle parlait, mais enfin, peu importe, c'est bien illustré. Ce qui est sûr, vous savez que c'était l'écureuil. L'écureuil qui était son symbole, et oui, qu'on voit partout dans le château, et avec sa devise « Jusqu'où montera-t-il ?» Mais oui, plus dur est la chute. Ce qui est sûr, c'est que Fouquet est arrêté à Nantes 3 semaines plus tard par le capitaine des mousquetaires, Charles de Bade de Castelmore, dit d'Artagnan, rendu célèbre par Alexandre Dumas. Le roi supprime la fonction de surintendant des finances et Colbert prend la tête de la gestion des finances du royaume, occupant à partir de 1665 le nouveau poste de contrôleur général des finances. Poursuivi pour lèse-majesté, pour un projet de complot contre l'autorité royale et pour malversation financière dans l'exercice de ses fonctions, Nicolas Fouquet encourt la peine capitale.
Est-ce que c'est pas un peu exagéré la peine capitale quand même ?
Oui. Sans doute. Le procès traîne et ce n'est que le 22 décembre 1664 qu'un arrêt le reconnaît coupable de détournement de fonds publics. Les juges votent son bannissement et la confiscation de ses biens. Une sentence à l'avantage du coupable qui disposerait ainsi de la liberté hors du royaume. Louis XIV décide qu'il n'en sera pas ainsi. Et rappelons-le, même s'il n'a jamais formulé ainsi, l'État, c'est lui, il n'a jamais dit ça, hein, c'est une phrase qu'on lui a prêtée.
L'État, oui. C'est lui, il ne l'a pas dit.
Ah, il n'a jamais dit.
Et la République, c'est l'autre.
La République, c'est moi.
C'est lui, ça vous vous en souvenez, Stéphane.
Alors certes, on se méprend aussi sur l'expression monarque absolu, parce que...
Pourquoi
c'est par rapport à il régnait directement sur les gens, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Il dispose d'un droit de grâce qui lui permet de briser la sentence des juges si cette dernière ne lui convient pas. Il l'utilise non pour alléger, mais là pour... Parfois c'est pour alléger les souffrances.
Oui, d'habitude,
là c'est pour aggraver la sentence.
Ah, il décide lui-même que c'est pas suffisant.
Il décrète la prison à vie pour le traître. Nicolas Fouquet est envoyé à la prison de Pignerolles, où il meurt après 26 ans de captivité, le 23 mars 1680. L'homme qui faisait de l'ombre au roi Soleil disparaît du paysage, permettant à Louis XIV de briller à nouveau de mille feux. En arrêtant Fouquet, il a pris la première et la plus importante décision de son règne. Il a écarté le risque d'une nouvelle fronde et consolidé son pouvoir personnel et l'autorité de l'État. Je vous le disais, quo non ascendet. Jusqu'où ne montera-t-il pas ? Eh oui, c'était la devise, de Fouquet. Eh bien, jusque-là, pourrait-on répondre à la devise de la famille Fouquet, Nicolas incarnait avant de dégringoler de son perchoir, si je puis dire. De son parcours, on retient que l'ascenseur social n'est pas à sens unique. Aussi haut qu'il puisse monter, il peut très bien nous ramener d'où l'on vient, et parfois même plus bas encore.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors, il y a 2-3 ans, j'ai lu un bouquin sur Nicolas Fouquet qui s'appelait Nicolas Fouquet, le soleil offusqué.
Excellent.
De Paul Morand. Fort de cette expertise, j'aurais pu m'interviewer moi-même, mais Stéphane, vous m'avez dit, ok, mais invitons quand même un spécialiste, un vrai. J'ai dit soit. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Vous êtes Stéphane, historien,
Mathieu, oui.
Auteur d'une biographie consacrée à Fouquet aux éditions Perrin et d'une histoire de la France, le vrai roman national publié chez Fayard. Alors, Stéphane vient de me le dire, vient de nous le raconter. Du parcours de Fouquet, on retient la richesse, mais aussi la chute vertigineuse. Qui manigance vraiment la chute de Fouquet dans l'ombre ? Est-ce que c'est Colbert ou c'est Louis XIV directement ?
Alors, au départ, il y a une volonté de Colbert, de, passez-moi l'expression, de savonner la planche de son rival.
C'est une sorte de rivalité à la base.
Absolument. Il veut la place de Fouquet, indiscutablement. Et il va tenter d'ailleurs, du vivant de Mazarin, de faire un coup en voyant un mémoire à Mazarin montrant les malversations de Fouquet. Mais Fouquet, qui est un homme de réseau, qui est un homme aussi de pouvoir, Fouquet dispose du service de la poste. Et il intercepte ce mémoire. Et pendant une nuit entière, avec son ami Gourville, ils vont copier l'un la page de droite, l'autre la page de gauche, le mémoire. Et Fouquet va se précipiter à Saint-Jean-d'Uz, puisque Mazarin est en train de discuter des conditions de la paix, la paix des Pyrénées, de 1659, et va dire, vous allez bientôt recevoir un mémoire, voilà ce qui est dit dedans, mais tout cela est faux, etc. Donc, il avait paré le coup. Après la mort de Mazarin, à la demande de Mazarin, Colbert est nommé intendant des finances, c'est-à-dire sous le surintendant des finances, et c'est là que les choses se gâtent, puisque chaque semaine, on voit Colbert avec un sac de velours entrer dans le bureau de Louis XIV, déployer, enfin, ouvrir...
Non, mais il a travaillé, vous avez raison, Jean-Christian Petit-Fils, Colbert a travaillé à la chute de Fouquet. Mais est-ce qu'au fond, Fouquet, c'est pas auto-sabré, s'aborder lui-même...
Notamment avec cette fête.
Avec cette fête, sa démesure.
La fête, elle arrive le 17 août,
tout
mais
est
les
déjà
décisions
joué.
Sont non, déjà sont prises.
Non, mais il a joué contre
étapes.
Lui.
Première étape, le 4 mai 1661... La décision est prise à la suite de l'intervention de Colbert en lui disant « Non, c'est pas possible, il va falloir arrêter les financiers et puis faire une chambre de justice pour juger les financiers. » 4 mai 61. Et puis, à la mi-juin, il y a un rapport qui arrive à la demande de Colbert sur le bureau du roi montrant que Fouquet fortifie la place de Belle-Île. Et là, c'est quelque chose de très grave. Crise de lèse-majesté. Fouquet est en train de se constituer une place de sûreté en cas de disgrâce.
Disgrâce, ouais.
Et donc là, il n'est plus possible. On va arriver.
Là, il a travaillé à sa perte.
Alors, après, il va falloir essayer de cacher. Et Louis XIV dissimule, lui fait un bon visage. Méfiez-vous du bon visage du roi, lui disent les grandes amies qui sont des espionnes aussi de Fouquet. Et Fouquet ne voit rien. Fouquet ne voit rien.
C'est étonnant pour un homme aussi avisé qui avait calculé et à la fin il ne calcule plus rien du tout. Jean-Christian Petit-Fils, vous restez avec nous. Stéphane, qui est très intrigué par l'histoire de ce monsieur très riche qui est subitement redevenu très pauvre, a encore quelques questions à vous poser pour éviter de commettre les mêmes erreurs.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il est l'or, monseigneur. Vous écoutez historiquement. Vous vous souvenez de ça, la
folie des grandeurs. On s'en souvient, Stéphane. On l'a encore revu cet été 2 ou 3 fois.
On continue cet après-midi sur Europe 1 d'évoquer la trajectoire météorique de Nicolas Fouquet avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, puisque vous êtes historien. Vous avez notamment publié une biographie de Fouquet. Au fond, ça arrangeait bien Louis XIV, il faut être honnête. Louis XIV, c'est à partir de ce moment-là qu'il va exercer son pouvoir personnel.
Oui, Louis XIV se rend compte que Fouquet veut devenir Premier ministre et que Fouquet a multiplié les réseaux autour de lui. Il a ses réseaux dans l'Église, il a des réseaux du côté des parlementaires, il fait des faveurs à certains parlementaires qui ont besoin de refaire leur toit, et bien hop, Fouquet paye. Et il paye avec quoi ? Avec l'argent du contribuable. Parce qu'il faut dire que Fouquet gagne 150 000 livres par an.
Ce qui représente quoi, aujourd'hui ?
Alors, c'est pas possible.
On peut pas convertir.
Mais on peut faire des comparaisons. 150 000 livres par an. Il dote sa fille de 600 000 livres. Il achète le château de Vaux, achète des terres, construit Vaux pour, j'ai fait les calculs, 4 millions. D'où il tire cet argent ? Sa famille était riche, mais pas à ce point-là. Il y avait 2 millions à peu près. Donc, il achète. En plus, il achète des propriétés, il achète Belle-Île, il achète des propriétés en Bretagne. Le château d'Elvin, le comté de l'Argouette, 115 ou 117 métairies. Il achète Cariserette, il achète la forêt de Couette-Canton. Il achète, mais il ne paie pas. À chaque fois, il est surintendant.
On le prête sur sa bonne mine.
Il achète, le contrat est signé, j'ai vu les contrats, mais il ne paie pas. Il promet plus tard, je paierai
c'est
plus
fou
tard.
Quand même.
Et évidemment, il est surintendant, je ne compte pas.
Voilà un homme quand même qui a rendu de grands services à la France pour une raison simple, c'est qu'il a préparé Versailles, c'est-à-dire qu'il a réuni autour de lui, il a agrégé des talents dont Louis XIV va se servir à bénéficier ensuite. Molière, Levaux, Lebrun, Mansart, c'est lui qui les a fait naître.
C'est un homme de goût aussi. Il y a des aspects sombres chez lui, mais il y a aussi des aspects lumineux. L'ami de Madame de Sévigné, de La Fontaine, de Pélisson, de Madame du Plessis-Blélière. Donc des gens qui sont
des gens qui
précieux
seront fidèles. Je pense à La Fontaine, par exemple, qui payera très cher la disgrâce royale parce qu'il est resté fidèle à Fouquet.
Absolument. Et Madame de Sévigné aussi, qui écrit des lettres absolument
sublimes. Mais donc, il a préparé le terrain pour Louis XIV, et Louis XIV n'a eu qu'à se servir.
Oui, dans ce sens-là, oui. Et Fouquet avait beaucoup de goût, c'était un homme d'art, de culture, d'esprit. Oui. Alors, il écrivait même des petits sonnets.
Mais il a mal vécu sa chute, non ? À Pignerol
C'était pas extraordinaire. Il était quand même pas maltraité. Il avait un appartement, disons, de 100 mètres carrés, mais c'était dans un vieux donjon, salpêtré, très, très chaud l'été, très froid l'hiver. On est sur les Alpes côtiennes, sur le versant italien des Alpes, donc c'était pas extraordinaire.
Est-ce qu'en prison, enfin, dans ces 100 mètres carrés, cet appartement surveillé, est-ce qu'il
plus
écrivait...
Plus de domestique.
Ah, c'était pas trop mal. Est-ce qu'il préparait son retour ? Est-ce qu'il pensait à un jour réussir à sortir de prison ou il s'était complètement résigné ?
Ah, au début, il a essayé d'envoyer des mémoires au roi pour expliquer sur le plan financier comment s'en sortir, mais il n'était pas question évidemment de...
Il ne s'est jamais justifié, il n'a pas écrit pour se
justifier. Si, alors pendant son procès, le procès a duré...
Non mais après, quand il est à Pignerol, une fois qu'il est condamné, qui sait qu'il va rester là-bas ?
C'est fini, il ne peut plus justifier, mais pendant son procès, il écrivait des défenses... Et il n'avait pas le droit de publier ses défenses, mais il les faisait passer à sa femme, qui elle-même avait une imprimerie à Saint-Mandé, et hop, on diffusait ça. Et c'est comme ça que ça va contribuer aussi à restaurer l'image de Nicolas Fouquet. Et au moment où il est condamné, ben on l'acclame, on l'applaudit, alors que Colbert, évidemment, est hué.
Belle histoire, hein, quand même.
Une histoire fascinante.
En tout cas, il est monté si haut que la chute ne pouvait être que plus vertigineuse. En tout cas, merci Jean-Christian Petit-Fils. Évidemment, vous nous régalez toujours avec vos livres, Fouquet notamment, auteur d'une biographie de Fouquet. Je rappelle aussi votre dernier livre, ça c'est chez Perrin, L'histoire de France, le vrai roman national, c'est chez Fayard.
Europe 1.
À suivre, de même que je suis là pour vous dévoiler l'autre Stéphane Bern, le Stéphane Bern intime, celui qu'on peut croiser dans les couloirs d'Europe 1, accoudé à la machine à café, se perdant en conjecture avec Mélanie Gomez, notre expert santé.
Non, ça c'est le phimosis, c'est le frein qu'on peut avoir sur le gland.
L'historienne Clémentine Portier-Kaltenbach est là pour vous faire découvrir l'autre facette de l'histoire. Côté coulisses, cette fois dans l'intimité des grands de ce monde, vous allez voir qu'il s'en est passé de belle. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, une émission dans laquelle on s'était promis, avec Mathieu Noël, de n'avoir aucun tabou. C'est pourquoi on a recruté Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, Stéphane, elle est la preuve vivante qu'en histoire, de brodel à bordel, il n'y a parfois qu'un tout petit air à déplacer. Elle nous entraîne chaque jour vers 5h moins le quart, dans les coulisses, parfois, il faut bien le dire, suffocantes de l'histoire. Passion, trahison, coucherie, romance, c'est souvent sous l'édredon que les choses se sont jouées. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah bonjour Mathieu, mais...
Mais pourquoi vous êtes accablé par
ça? Mais parce que je suis l'historienne la plus coincée du PAF et vous me mettez dans la case des alcools.
Si vous êtes la plus coincée du PAF, j'aimerais bien rencontrer les autres.
Mais enfin, moi, vous savez, je parle de sexe, mais avec beaucoup de distanciation. C'est comme Stéphane avec son Phimosis. Dont d'ailleurs.
Non, mais on parle de tout ça sans le connaître.
J'allais dire, excusez-moi, le Phimosis de Louis XVI, dont vous aviez le spécialiste qui vient à l'instant de sortir. Parce qu'il explique que Louis XVI n'avait pas de Phimosis, en fait.
Ah bon?
Bah oui, c'est mais enfin, il a eu une petite opération. Oh, bon, écoutez, je suis pas là pour parler de ça.
Vous n'êtes pas là pour parler de sexe, mais on y revient toujours. Clémentine,
on a carrément parlé du prépuce du roi de France.
Oui, ça va très
Excusez-moi,
loin.
Mais
ça va trop loin.
Non, moi je suis là pour parler quelque chose nettement plus romanesque.
Dites-nous.
Le tombeau de Juliette, Vérone, Roméo et Juliette, la haine inexpugnable entre famille Montaigu et Capulet, bien sûr, messieurs, vous connaissez ça par cœur. Mais est-ce que vous saviez qu'à Vérone, on peut se recueillir sur la tombe de Juliette, hein?
Comment?
Eh oui, dans le cloître du couvent San Francesco al Corso. C'est là que Juliette Capulet aurait épousé Roméo Montaigu. Et c'est ici aussi qu'elle aurait été inhumée. Donc de nos jours, on peut le visiter. Et aux abords du couvent qui abrite ce tombeau, eh bien, on peut voir un ensemble de 10 bronzes d'un sculpteur contemporain qui illustre la tragédie des deux amants. Alors... Bien sûr, rendu célèbre par Shakespeare, hein, les amours tragiques de Roméo et Juliette sont inspirés d'une histoire vraie, celle de Gianozza et Mariotto. Mais c'était des amoureux de Sienne, pas du tout de Vérone. Leur histoire a d'abord été romancée par un certain Luigi da Porto, dont Shakespeare s'est inspiré à son tour. Je perçois bien sûr, messieurs, votre inquiétude. Vous vous demandez, mais si Roméo et Juliette n'ont pas existé, qui donc se trouve sous la pierre tombale de Vérone? Eh bien, personne.
Le tombeau
est vide. C'est ce qu'on appelle un cénotaphe. Hein, et on ignore tout à fait qui un jour a dit il y a ce tombeau-là, il y a des moines, et ben celui-là en marbre rouge, et ben on va dire que c'est le tombeau de Juliette. Hein.
Ils ont fait ça pour les touristes.
Oui, parce que depuis des siècles, c'est un lieu de pèlerinage pour les amoureux. Et même au fil du temps, des fragments du sarcophage de Juliette ont été rognés par les amoureux de passage, et certains morceaux.
Ils font quoi?
Bah, ils se frottent sans doute. Ça, j'en sais rien. Comme sur le gisant de Victor Noir au Père Lachaise, célèbre protubérance. Je ne sais pas ce que font les gens. Moi, je suis une honnête femme, monsieur. Je ne sais pas ce qu'on fait sur le tombeau de Juliette. Moi, j'irai y pleurer personnellement, pas m'y frotter. Alors, en tout cas,
à vous, Stéphane.
Des morceaux ont été prélevés pour confectionner des boucles d'oreilles et un bracelet destiné à une grande dame. Alors, je vous demande à qui ces bijoux ultra symboliques, donc boucles d'oreilles et bracelets confectionnés avec des fragments du tombeau de Juliette à Vérone, c'était au début du 19e, qui les offre et à qui? Eh bien, c'est à la jeune impératrice Marie-Louise, cadeau de son...
Napoléon.
Exactement.
C'est Napoléon qui est allé...
Exactement. Alors, il n'y a pas été. Attendez, il avait des gars pour s'en occuper à sa place.
Il avait des gens de maison, comme vous, Stéphane.
Alors, il lui avait, bien sûr, il a dit, allez, mon brave, allez donc me quérir un fragment du tombeau de Juliette à Vérone. Voilà. Et alors, il avait évidemment offert à sa jeune femme des diamants, des émeraudes. Il a ponctionné largement le trésor royal, les plus beaux joyaux de la couronne. Mais son plus beau gage d'amour. Parce que moi, vous voulez me mettre dans l'alcôve, mais ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Hein? Alors son plus beau gage d'amour, ce furent ces pierres du tombeau de Juliette qui n'avaient aucune valeur vénale, mais une incomparable valeur sentimentale. Et oui, l'empereur était un romantique. Alors, d'ailleurs, le tout premier cadeau qu'il a fait à Marie-Louise quand elle avait 18 ans et avant qu'elle vienne à Paris, il lui fait envoyer un album de 50 aquarelles de vues de Paris pour qu'elle se familiarise avec la ville dont elle allait devenir impératrice.
C'est
quand même délicat. Et dans le même genre, au printemps 1811, pour lui faire une surprise alors qu'elle vient de lui donner un héritier, et dans le but de lui rappeler le château de Schönbrunn où elle avait passé toute son enfance, Napoléon fait créer en une nuit, dans la forêt de Compiègne, devant le château, une trouée spectaculaire, l'allée des Beaumont. Donc essayez d'imaginer la scène. Marie-Louise qui vient d'accoucher arrive au château de Compiègne. Elle se met au lit. Bon, au moment où elle se couche devant elle sur son balcon, il y a une grande forêt. Elle se lève le matin et là, qu'est-ce qu'elle voit? Sur près de 5 km.
Il a détruit des arbres.
Devant sa chambre. Et voilà. Et il n'a pas détruit des arbres.
Il n'y avait pas encore Éric Caron à l'époque et tous ces écolos.
Mais non, il n'y avait pas de tronçonneuse surtout. Mais ça faisait des mois.
Mais ça a dû faire du bruit. Ça l'a pas réveillé.
Non, il a fait préparer. Il a fait préparé ça pendant des mois. Et les arbres étaient
pré-coupés. Ah,
au premier plan, là, tout d'un coup, pendant la nuit, on enlève tout. Et donc, elle se lève le matin et elle croit qu'elle est à Schönbrunn. Moi, je vous dis, l'empereur, c'était un sentimental. Ouais. Alors, si vous allez
avec... Avec l'argent des autres, c'est facile.
Oh, ça va, tout de suite, là.
À l'autre monarchiste, là. Non, mais, oui. Mais alors, par contre, ouais. Bonaparte, là, lui, c'était autre chose. C'était un autre argent public.
Ça, je dis ça,
il y a deux poids, deux mesures.
Non, justement.
Ça me scandalise. Alors, Versailles, ça me scandalise qu'on ait construit Versailles, alors.
Non, parce qu'on se rembourse avec les visiteurs.
Il n'avait pas prévu ça à l'époque, les manants.
Le boutiquier, regardez-moi ça. En tout cas, si vous allez à Vérone tous les deux, vous ne pouvez pas vous tromper. Allez-y tous les deux.
N'allez pas lancer des rumeurs dans la presse.
Quand vous verrez un porche recouvert de graffitis de déclaration d'amour dans toutes les langues, vous saurez que c'est là que se trouve le célèbre balcon et le tombeau de Juliette. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que vous pouvez confier vos peines
Stéphane
de cœur.
Stéphane est vieux, mais il peut se déplacer quand même. Voilà. Hein,
non,
bah,
il se déplace,
on va y arriver.
Mais
il peut
écrire
encore.
Aussi à Juliette par courrier.
Non, c'est vrai, on peut
elle
écrire
reçoit
Juliette.
Chaque année des milliers de lettres auxquelles les membres d'un club de bénévoles répondent.
Ah, c'est un gros moustachu qui te répond, t'écris à Juliette. Luigi, machin, qui te... Oh non,
Stéphane,
franchement, c'est décevant.
Mathieu...
Hein.
Même adresse que le Père Noël.
c'est les mêmes qui répondent.
Non, non, petit cœur douloureux, cœur à prendre. Ne perdez pas une minute. L'adresse Juliette, Vérone. Italie. Et
ça
Napoléon,
marche.
Lui, il aurait écrit sans hésiter.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais merci Clémentine. Effectivement,
oui,
peu
super.
De sexe aujourd'hui et beaucoup d'amour dans
oui,
cette chronique. À suivre dans Historiquement Vôtre, un duel si épique qu'il n'est pas sans rappeler celui qui opposa Napoléon à Wellington sur la morne plaine de Waterloo. Certes, il y aura probablement moins de morts, mais tout autant d'humiliation pour celui de Stéphane ou de Clémentine qui s'inclinera dans le quiz. A tout de suite.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand on lui a expliqué qu'il allait devoir bosser avec moi, avouons-le, Stéphane Bern a eu un mouvement de recul.
Ah mes aïeux, un révolutionnaire.
Puis, il a eu un deuxième mouvement de recul quand il a découvert mon idée perfide de l'opposer chaque jour à Clémentine Portier-Kaltenbach dans une épreuve si cruciale pour sa crédibilité qu'on l'a baptisée « Bern to be alive ». C'est notre quiz, évidemment. Pour l'instant, il faut-il le rappeler, Clémentine a une longueur d'avance. Question 1. Pour vous, mon cher Stéphane, essayez de vous concentrer un peu aujourd'hui.
Oui, il serait temps.
Thomas Jefferson, vous voyez qui c'est ?
Oui.
Troisième président américain. Eh bien, figurez-vous que Thomas Jefferson, le coquinou, cultivait du cannabis dans son jardin. Vrai ou faux ?
Je vois pas pourquoi il aurait cultivé du cannabis dans son jardin. S'il y a un piège, si vous avez voulu mis du cannabis pour me faire tomber, peut-être.
Non,
mais non,
il avait du coton dans sa propriété de Virginie.
Mais même quand il est venu en France, est-ce qu'il avait
en
du
France,
cannabis?
Il n'aurait pas consommé du cannabis à Paris.
Non, mais peut-être sans le savoir.
Sous la Révolution.
Vous faites.
J'aime bien que vous partez vraiment très très loin. Mmh. Quelle est la réponse?
Non.
C'est faux.
Oui.
C'est faux. Vous avez raison, mais c'est plus intéressant que ça. Car George Washington, le premier président des États-Unis, lui. Il cultivait du cannabis. Dans son journal, on apprend qu'il cultivait du chanvre pour stabiliser les sols, mais il est écrit aussi qu'il séparait les plantations mâles des plantations femelles, prouvant qu'il ne s'en servait pas que pour faire du tissu.
Oh,
eh oui,
diffamation
oui, ah, non, c'est trop tard, de toute façon, il y a prescription. Question 2.
Donc j'ai le point.
Il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est fait pour apprendre ce quiz, Stéphane. Non, vous, je sais que vous êtes compétiteur dans l'âme, mais oui, vous avez le
vous
point.
Vous voulez m'humilier. Je l'ai compris depuis le premier jour.
Vous avez le point. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. La fleur nationale de l'Écosse est le chardon. Parce qu'au XIIe siècle, les Scots, un peuple celte venant de l'est de l'Irlande, torturaient leurs prisonniers en leur faisant manger des chardons, ce qui est absolument ignoble. Est-ce vrai ou faux ?
Spontanément, je ne connais pas la réponse, je dirais non, parce que ça me paraît tout à fait ahurissant. Les Écossais, quand vous voyez la façon dont meurt le malheureux dans Brave Heart, le héros de l'indépendance, oui, Mel Gibson, absolument, on ne s'amusait pas à titiller ces victimes. Avec un chardon.
On y allait plutôt.
On y allait franco. C'était déroulage de tripes et autres trucs.
Hein. C'est le chardon parce que c'est ce que les envahisseurs ont vu. C'est la fleur qu'ils ont trouvée quand ils ont entré en Écosse.
C'était l'info en plus de Stéphane Bern qui, cela dit, ne lui rapporte pas de points.
Non, mais
ne
je
vous
le
emballez
fais
pas.
Généreusement ça n'est que justice. Pour ma copine,
le point va à Clémentine. Effectivement, c'est faux. Par contre, la légende dit que des Scots s'étaient endormis dans un campement que des ennemis voulaient attaquer. Mais comme ils ont marché sur des chardons et crié, les Scots se sont réveillés. Et on peut livrer une bataille victorieuse. Question numéro 3 pour vous, mon cher Stéphane. Le dernier mammouth s'est éteint il y a 15 000 ans. Pour résister à des températures extrêmement froides, il était pourvu d'une sorte, pardonnez-moi, de clapet anal. Vrai ou faux? Ne regardez pas, ne regardez pas en régie, comme si notre réalisateur Romain Causeur savait si le mammouth avait oui ou non éclaté.
Comment vous voulez-vous?
Pardon,
je bien.
Mais vous êtes historien ou pas?
Non, bon.
C'est de l'histoire.
En quoi un clapet anal peut-il préserver du froid? Tu peux avoir une glande qui produit une sorte de graisse comme, comme le muscle.
Pour la beauté, ne serait-ce que pour avoir la réponse, je dirais que oui. Le mammouth avait un clapet anal.
Il ne répond jamais mieux que quand il répond au hasard. Vrai. En plus d'une épaisse couche de graisse, d'une épaisse fourrure, il était doté d'un opercule anal qui lui permettait de tout fermer lors des grands foins.
Mais oui.
Et de l'ouvrir qu'en cas de besoin.
Oh non, on ma pauvre mère.
On l'a appris quand
on l'a
trouvé.
Ça l'a pas empêché de disparaître, excusez-moi.
Oh, vous êtes dur avec le mammouth, Stéphane. Ah. Et oui, on l'a appris quand on a retrouvé un mammouth mâle entièrement congelé en 1901.
Bah oui, Jarkov.
En Ukraine. Ah, vous connaissez même
Jarkov,
son nom?
Jarkov, le mammouth du permafrost.
Un point
merci,
supplémentaire
un bonus, là,
attribué à Clémentine.
Oh,
un point, c'est comme ça, c'est moi qui fais le
règlement. Bisque, bisque,
mais on les insulte vol. Question numéro 4. C'est pour vous, Clémentine. Qui a dit... Napoléon n'était qu'à moitié corse, il ne croisait qu'un seul bras. Coluche, Jacques Dutronc ou Philippe Croizon?
Je ne sais pas qui est Philippe Croizon, qui doit bien m'excuser.
Il vous excuse, mais des bras, il n'en a plus beaucoup.
Ah, c'est ce monsieur qui a traversé la Manche.
C'est ce monsieur très courageux.
Alors, donc
et très
ça
drôle,
n'est pas
d'ailleurs.
Lui qui a pu dire ça. Et quel était le précédent?
Coluche ou Jacques Dutronc?
Oh, Jacques Dutronc.
Une mauvaise réponse de Clémentine
Portet-Gatelbach,
c'est
bien
aussi rare qu'une éclipse soleil-lune. Bravo à Stéphane. Non, pardon, qu'est-ce que je dis bravo? Je félicite Stéphane alors que ce n'est pas terminé. C'est Coluche qui a dit cette phrase. Il reste une dernière question pour vous départager, car je crois que vous êtes à touche-touche, comme on dit.
Si j'ose
cette formule.
Mais je demande un juge de paix, moi.
Attention,
c'est pas possible.
On parle d'un de vos cousins ou quelque chose comme ça. Jean de Luxembourg,
oui.
Roi de Bohême, comte de Luxembourg, oui. Roi de Pologne, est resté dans les mémoires comme particulièrement courageux. Mais pourquoi? Trois possibilités. Amputé des bras, il tirait à l'arbalète avec ses pieds. Il est mort au combat alors qu'il était déjà aveugle, ou il combattait torse nu, refusant l'armure.
Non, aux deux. On l'appelait Jean l'aveugle, donc il était aveugle.
Ah, si on l'appelait Jean l'aveugle, effectivement, c'était donné
à... Il a combattu aveugle,
Jean de Luxembourg.
Bien sûr, il a
combattu aveugle. Jean de Luxembourg était aveugle.
Donc ça, c'est votre réponse,
Stéphane.
Là, on parle de votre famille, quand même.
Ah
donc,
oui, bien sûr.
Ah voilà, oui,
c'est
certain. Bah, c'est ça.
Je suis certain qu'il était aveugle.
Tout ça, c'est des étrangers de pas chez nous. Pas chez nous, comme dirait AG Canonix.
Il était contre le prince noir, et c'est là qu'il avait la...
Mais c'est pas celui qui a kidnappé Jeanne d'Arc, non, Jean de Luxembourg?
Alors
moi, je ne sais pas, je m'avoue vaincu et je dépose les armes devant mon beau vainqueur du jour.
Attention, c'est un grand jour pour Stéphane Bern. Effectivement, Jean de Luxembourg est mort à la bataille de Crécy alors qu'il était déjà aveugle sur son cheval. Il était relié par des chaînes avec quatre chevaliers qui devaient le protéger et lui dire où frapper avec son épée. Ça devait être pratique. On l'appelait effectivement Jean l'aveugle. Mais si je vous l'avais dit, ça vous aurait sans doute mis sur la voie. Mais... Et pas besoin de vous mettre sur la voie, vu que vous aviez la réponse, mon cher Stéphane,
bravo.
Qui remporte aujourd'hui pour la première
non,
fois.
Non,
bravo.
Et ce n'est pas trop tôt. Et ce n'est pas trop tôt. Le quiz du jour. Bravo Stéphane.
Europe 1.
À suivre, une nouvelle heure placée sous le signe de la découverte et de la bonne humeur. Historiquement, vôtre continue de vous faire découvrir le destin de ces personnages qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent. Après Nicolas Fouquet, nous évoquerons le foudroyant succès de Rockefeller.
Foudroyant, faut quand même relativiser. Toute la fortune de Rockefeller ne représente aujourd'hui que le quart du budget annuel de l'arrosage automatique de la villa de Stéphane à Paros. Mais diable, comment devient-on aussi riche que vous, Stéphane?
Faut bosser, mon vieux.
Bah, je me disais aussi qu'il y avait un loup.
h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous souvenez-vous, Stéphane, quand vous étiez en 5e B au collège Saint-Ursule des Glaouis, de ces deux heures d'histoire rébarbative avec ce malheureux monsieur Gigot, prof que vous martyrisiez en chantant avec vos camarades.
Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin.
On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce
pauvre monsieur Gigot.
Je sais pas s'il s'en souvient, lui.
Historiquement vôtre, c'est l'antithèse de ces cours d'histoire chiants du collège.
Oui, Mathieu, chaque après-midi sur Europe 1, on joue avec l'histoire, on rit avec l'histoire, tout en restant hyper rigoureux sur le fond, bien sûr. Sauf, il faut bien l'avouer, durant votre chronique, Mathieu, 99% vrai, comme son nom l'indique, s'autorise à quelques libertés avec les faits historiques.
Oui, Stéphane, mais qu'est-ce qu'un tout petit pourcent de conneries dans deux heures de rigueur historique? Je suis sûr que de là où elle nous écoute, au paradis des milliardaires, la regrettée Liliane Bettencourt, dont je brosserai le portrait tout à l'heure, peut-être au couteau, ne m'en tiendra pas rigueur.
Au programme de cette deuxième heure également, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent, toujours. Après Nicolas Fouquet, nous vous raconterons enfin, enfin surtout moi, le destin fou de John D. Rockefeller, l'homme le plus riche de tous les temps. Et évidemment, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, débarquera avec tambours et trompettes, ou plutôt couteaux et fourchettes, en argent forcément, ou en vermeil, pour nous raconter l'histoire du caviar qui se prend à la louche.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors Stéphane, tout ça est bien joli, l'origine des mots, l'origine des recettes, mais revenons au thème central de notre émission, le flouze. Ce flouze que nous apportera peut-être le tirage de l'Euromillion demain et qui nous permettra bientôt peut-être, main dans la main, je l'espère Stéphane, de pénétrer nu dans le bureau d'Arnaud Lagardère pour lui présenter notre démission avec l'élégance et le tact qui nous ont toujours caractérisés.
Au revoir Président.
Vas-y, ce truc Corinne.
Au revoir, Président.
En attendant, préparons-nous, Stéphane, à cette vie de multimillionnaire. Racontez-nous l'histoire de Rockefeller, l'homme le plus riche de tous les temps.
Historiquement vôtre.
Le récit.
La ténacité est l'une des qualités indispensables pour réussir dans la vie, quel que soit le but à atteindre.
C'était, ça, c'était dans cet accent anglais.
C'était
l'autrichien, je ne sais pas où on était là.
Ah oui.
C'était texan, c'était l'accent texan.
Je ne sais pas, j'ai essayé.
Pardon, on s'y croirait, Stéphane. C'était vraiment impressionnant.
Oh, vous me flattez, mon bon Blaze. Alors, il l'a dit parce qu'il l'a fait. Fondateur d'une dynastie régnant sur un véritable empire industriel, John Davison Rockefeller est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Il incarne à lui seul le mythe américain. Je vous raconte donc le parcours d'un self-made man au pays de l'or noir. John Davison Rockefeller naît le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'état de New York, dans un milieu modeste. Son père, il ne le voit que rarement, c'est un marchand itinérant un peu véreux. Officier de santé, qui exerce la profession médicale sans le titre de docteur en médecine, il vend des médicaments miracles pour soigner diverses maladies, et notamment le cancer. Sauf que ces médicaments sont le fruit d'un travail de charlatan. Il s'agit en réalité d'un mélange d'huile et de laxatif.
N'essayez pas de reproduire ça chez vous, Stéphane.
Hein. Oui, c'est vrai, il faut surtout pas. C'est auprès de sa mère que John D. Rockefeller trouve une éducation valeureuse. Très pieuse, elle passe ses journées à prôner le travail et les bonnes actions auprès de ses 6 enfants. Une éducation issue du culte presbytérien qui porte ses fruits. Dès son enfance, Rockefeller est formé au monde des affaires. Son père lui transmet l'appât du gain et sa mère le travail et la planification. Il sait donc rapidement ce qu'il veut faire de sa vie, devenir un grand homme d'affaires.
Ça, c'est intéressant, Stéphane. La plupart des gosses, ils veulent tous devenir vétérinaires. Moi, mon fils, il veut devenir vétérinaire. Je lui dis, mais non, sois un businessman.
Ou footballeur.
Rapporte de la thune. Ou footballeur. Mais alors, il faut être un très bon footballeur.
Oui, mais dans ce cas-là, vous êtes aussi milliardaire. Non, lui, il a commencé dès l'âge de 7 ans en vendant des dindons.
Comme c'est original.
C'est le Figaro du 3 juillet 1909 qui rapporte cette info. Ce fut, dit-il, dans les curieuses réminiscences qu'il publie dans le World's Work, ma première spéculation. Après avoir élevé et soigné des dindonneaux donnés par sa mère, il explique « J'allais les vendre de sorte que toute la recette fut pour moi un bénéfice net. »
Pas bête.
Il souhaite devenir un homme d'affaires et se lance très tôt dans la vie active. À 16 ans, il est employé aux écritures dans une maison de commerce de gros. Il gravit vite les échelons. En à peine 2 ans, il devient aide-comptable, puis comptable en chef. Il est ainsi formé à la comptabilité commerciale et à la logistique. À 19 ans, il décide de se mettre à son compte et s'intéresse de près à un marché qu'il juge florissant, le pétrole. Le forage, lui semblant trop hasardeux, c'est vers la raffinerie qu'il se tourne. Il se spécialise alors dans la production de kérosène, un dérivé du pétrole employé dans les lampes. Le jeune patron est obstiné et pointilleux. Il supervise tout dans les moindres détails et réinvestit ses gains pour augmenter la taille de sa société. Le succès est au rendez-vous. À 25 ans, il est à la tête d'une des plus grandes raffineries américaines. En 1870, avec de nouveaux associés, il fonde la Standard Oil Company.
Son objectif est simple, il veut contrôler l'ensemble de la filière. Extraction du pétrole, raffinage, transport.
Comme quoi on peut avoir et du pétrole et des idées.
Mais oui, en quelques mois, la Standard Oil rachète les autres raffineries du territoire américain. Cleveland, puis Pittsburgh, Philadelphie et New York. Cela grâce au talent de persuasion de Rockefeller, mais aussi à quelques moyens de pression. Il menace les compagnies de chemin de fer de construire un oléoduc si elles ne lui font pas des rabais pour le transport de ses produits. Il organise aussi la pénurie des produits chimiques nécessaires au raffinage pour affaiblir ses concurrents. Il rachète en sous-main une société qui approvisionne en barils de bois pour suspendre les livraisons et va même jusqu'à faire dérailler des trains et organiser des blocus sur les routes.
Des blocus sur les routes ? Rockefeller serait-il le premier gilet jaune, Stéphane ?
Oh, l'ascension est rapide. La Standard Oil parvient à posséder 80% du marché du raffinage américain. À 40 ans, Rockefeller a la main sur l'industrie pétrolière, denrée essentielle à la nouvelle révolution industrielle. Pourtant, vous savez, Mathieu, il vit modestement.
Comme vous.
Oui, pas de Rolex, vous voyez.
Non. Bon,
pas d'étalage de fortune, au contraire. Non, j'ai pas de nom.
Qu'est-ce que vous avez
En bon chrétien baptiste, il fréquente assidûment l'église avec sa femme, dans des costumes et chaussures usées jusqu'à la corde. Pour lui, l'argent n'est pas une fin en soi. C'est pour cela qu'il dira « Si ton seul but est de devenir riche, tu ne l'atteindras jamais ».
Voilà qui est bien dit. Qui de mieux placé qu'un millionnaire pour nous parler d'un autre millionnaire ? Stéphane Bern continue de nous parler de Rockefeller.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue 2 heures de bonne humeur, de découverte et de suspense. On s'intéresse aujourd'hui à ceux qui, au cours de l'histoire, vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent. Stéphane, vous ne nous faites pas mariner plus longtemps. Qu'advient-il de Rockefeller ? Est-ce que ça finit mieux pour lui que pour Nicolas Fouquet, dont on parlait au début de l'émission ?
Oui, on avait laissé Rockefeller au moment où je vous disais que l'argent n'était pas une fin en soi.
Vous parlez de Rockefeller, il y a des contre-exemples, sinon.
Non, évidemment, Rockefeller se trouve vite confronté à la législation américaine qui interdit aux hommes d'affaires d'exercer leur activité en dehors de l'État dans lequel ils habitent. Pour contourner le problème, il emménage à New York en 1883 et crée un trust, c'est-à-dire qu'il répartit son capital entre une multitude d'actionnaires. Les parts de ces compagnies sont alors disséminées dans les différents États du territoire. Rockefeller crée ainsi la première grande entreprise multinationale.
Prends ça, Google.
Le groupe est tentaculaire. La presse le surnomme d'ailleurs la pieuvre. Il compte 100 000 employés, 70 sociétés, 23 raffineries et 22 000 puits exploités. L'ingénieux homme d'affaires présente son entreprise comme une confrérie fondée sur la coopération. Mais en réalité, il est à la tête d'un monopole qui accapare à son profit tous les profits. Avec l'arrivée de l'automobile, la demande de pétrole explose et la fortune de Rockefeller dépasse le milliard de dollars de l'époque, soit entre 300 et 350 milliards de dollars d'aujourd'hui. Ce qui fait de lui l'homme le plus riche de toute l'histoire, bien loin devant les petits joueurs, la Bill Gates, fondateur de Microsoft, Jeff Bezos, le patron d'une autre pieuvre, Amazon, à la fortune colossale.
Jeff Bezos, un smicard à côté de votre Rockefeller.
Non mais, trop belle pour durer, cette situation va se trouver mise en péril par la réaction du président de l'époque, Theodore Roosevelt, figure de proue de la lutte contre les trusts. Pour faire tomber la Standard Oil, le Congrès américain vote en 1890 la première loi fédérale pour lutter contre les combinaisons sous forme de trust dont le but est de restreindre le commerce ou de s'assurer le monopole d'une industrie donnée. Le bras de fer juridique dure plusieurs années et fait la une des journaux. En mai 1911, la Cour suprême décide le démantèlement de la Standard Oil en 34 compagnies. Mais ce démantèlement n'est qu'un écran de fumée. Les actionnaires sont les mêmes qu'auparavant, les produits sont vendus sous une même marque et les ex-filiales se répartissent les territoires de vente sans compétition. Valant bien plus que l'ancien trust, ces sociétés font exploser la fortune de Rockefeller, qui en reste le principal actionnaire.
D'où l'expression « solide comme un Rockefeller ».
La carrière de Rockefeller a marqué un tournant dans l'histoire économique des États-Unis. Malgré ses pratiques commerciales controversées, Rockefeller n'est pas le requin qu'on peut imaginer. N'ayant jamais oublié les paroles de sa mère, il investit une grosse partie de sa fortune dans des actions philanthropiques. Il devient le plus grand donateur de tous les temps dans les domaines de l'instruction, de la santé, avec la création de l'Institut Rockefeller en 1901 pour la recherche médicale, la Fondation Rockefeller en 1913, destinée à promouvoir le progrès scientifique dans tous les pays du monde, ou du patrimoine. Il est le principal mécène de la reconstruction du château de Versailles. D'ailleurs, je suis allé avec son fils voir mettre une plaque au château de Versailles, son fils, qui s'appelait aussi David Rockefeller, qui avait 100 ans, et de la cathédrale de Reims après la Première Guerre mondiale, comme vous le savez, a été gravement endommagée. Le milliardaire meurt le 23 mai 1937 à Ormond Beach, en Floride. Il laisse à ses héritiers une fortune colossale qui représente environ 1,6% de l'économie américaine. Rien que ça. Et au reste du monde, Rockefeller a livré un héritage mythique, ce qu'on appelle toujours le rêve américain.
Dites-le-moi en anglais.
The American Dream.
J'aime tellement quand vous parlez anglais.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Et maintenant, Stéphane, nous allons vérifier si tout ce que vous avez raconté est vrai. Voici Jason Rockefeller, le petit-fils de Rockefeller. Non, je déconne. Non, on a retrouvé quelqu'un qui connaît bien le dossier quand même. Bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Vous êtes historien des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS. L'EHS, tout simplement.
L'EHS.
Ah, l'EHS.
L'École des hautes études en sciences sociales.
Et vous vous intéressez principalement aux inégalités économiques et sociales aux États-Unis. Vous êtes gâté avec Rockefeller, qui possédait donc 1,6% de toute l'économie américaine.
Et il y a une première question. Est-ce que c'est quand on parle du rêve américain, il l'incarne au plus haut degré?
Au plus haut degré, il l'invente même. Hein, il le réinvente complètement avec cette histoire incroyable. Hein, vous l'avez dit, d'un petit comptable qui devient l'homme le plus riche du monde. Et qui pour l'instant n'a jamais été égalé dans l'histoire de l'humanité. Donc une trajectoire extraordinaire.
Enfin, il y a Donald Trump quand même.
Il y a Donald Trump.
Mais il n'est pas parti.
Et puis l'histoire n'est pas terminée.
Oui, 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 elle est loin d'être terminée.
Mais en tout cas, Rockefeller, voilà, il va créer une fascination chez des millions de jeunes hommes et jeunes femmes qui vont vouloir l'imiter et connaître ce destin incroyable.
Alors, vous savez, ma passion pour l'histoire est sincère, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de déstabiliser Stéphane Bern. Est-ce que tout ce qu'il a dit est vrai, notamment l'histoire des dindons? Ça c'est vrai ou ça participe à la légende un peu?
C'est une histoire vraie, mais il n'est pas devenu milliardaire grâce aux dindons. Hein. Il est devenu milliardaire grâce à autre chose.
Oui.
Et ça va être le pétrole principalement qui vont faire de lui l'homme le plus riche du monde.
Si l'automobile n'avait pas connu l'essor qu'il y a eu derrière, est-ce qu'il aurait été aussi l'homme le plus riche du monde ou est-ce qu'il a eu aussi beaucoup de chance? Parce qu'on comprend que c'est un bon entrepreneur, mais par contre, il a eu une chance absolument dingue que l'automobile du pétrole. Enfin,
il faut toujours une chance incroyable pour devenir milliardaire quand on n'a pas de fortune, quand on n'a pas de capital. Et donc, il est tombé au bon moment. Il a eu un talent incroyable. Hein, vous l'avez dit, cette capacité à penser le capitalisme, à penser les chiffres. Hein. Il adore les chiffres. Hein. Il compte, il calcule les transports, les trajets, etc. Et il voit très bien quelque chose à faire avec tout cela.
Mais l'argent n'est pas une fin en soi. Il faut retenir cette leçon.
Je vais noter aussi.
Il y a une chose qui me passionne, moi, chez les Rockefeller, c'est leur origine française. Il faut savoir qu'ils étaient huguenots à la base. Vous savez, avec la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, Louis XIV a fait partir tous les protestants, soit en Allemagne, aux Pays-Bas, dans des pays où ils ont fait fortune. Et puis, les Rockefeller viendraient des Roquefeuilles, une famille huguenote de France.
C'est vrai ?
Bien sûr. Donc, d'une certaine manière...
Ah non, Stéphane, évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai.
Elle est française, d'après ça.
et la richesse... C'est un peu discuté. C'est-à-dire, Rockefeller appartient aussi à une génération qui va vouloir s'inventer une généalogie nobiliaire. Hein, et il va... Alors, il y a des doutes. Hein, les généalogistes ont essayé de remonter. Tous ces nouveaux milliardaires veulent s'inventer une généalogie qui les différencie des millions d'immigrants qui arrivent alors sur le sol états-unien. Mmh. Ils veulent autre chose. Et donc, ils vont demander à des généalogistes de trouver des traces de leur famille avant la famille. Et donc, on se réinvente des généalogies. Oui. Rockefeller, probablement, s'est réinventé une généalogie plus nobiliaire pour se distinguer de la masse du peuple américain et montrer que, dès le départ, dans la famille, il y a quelque chose d'extraordinaire qui explique sa belle réussite.
Moi, je trouve que le dindon suffisait.
Le dindon, c'était un beau point de départ. On continue de parler du destin incroyable de Rockefeller. Avec vous, Romain Huret.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Eh oui, vous écoutez toujours Historiquement vôtre. On parle avec Romain Huret du fabuleux destin de Rockefeller dans le cadre de cette thématique du jour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent. C'est devenu un nom mythique quand même en Amérique.
En Amérique et dans le monde. Tout le monde connaît Rockefeller. Être riche comme Rockefeller, c'est une expression populaire et tout le monde rêve de connaître ce destin incroyable. États-Unis et ailleurs.
On l'a dit, il était richissime, c'était l'homme le plus riche de tous les temps, mais il n'était pas pour autant bling-bling, Rockefeller. Ça, c'est intéressant, cette dimension-là.
Non, parce que vous avez parlé dans le quiz de Jefferson, il y a un autre rêve américain qui est le rêve de la frugalité, le rêve de l'homme simple, le rêve de voltairien, de cultiver son jardin. Chacun doit cultiver son jardin. et être extrêmement frugal. Et Rockefeller, il est à la croisée de ces deux mondes, à la fois l'Amérique frugale, l'Amérique des débuts de la République, et une Amérique qui s'enrichit. Et donc, dans son comportement quotidien, il va être extrêmement modeste. Hein. Il va cacher, vous l'avez dit, l'épisode des souliers.
Oui, il, avait toujours des costumes qui étaient usés jusqu'à la corde, des souliers qui étaient, des chaussures qui étaient rassemblées tout le temps, tellement.
Mais est-ce que ça, c'est pas de la com aussi? Il n'y avait pas de com?
Je crois que c'est son éducation protestante, presbytérienne. Mmh. Mais il y a une autre chose qui est le pendant de cette richesse et qu'on retrouve encore chez les milliardaires américains, c'est la philanthropie. C'est le fait, par exemple, Bill Gates, Warren Buffett. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait cette culpabilité,
s'excuser
d'avoir gagné autant d'argent et qu'il fallait redonner autant à la société.
Mmh. C'est une culpabilité qui s'explique aussi par la croyance religieuse, vous l'avez dit, hein, protestants et Rockefeller, comme d'autres milliardaires, ont peur que cette richesse accumulée de leur vivant les condamne à l'enfer. Et donc, ils vont décider de redistribuer une partie de cette richesse, non pas par l'impôt, Rockefeller n'aime pas l'impôt, il ne veut pas payer d'impôt, en revanche, il veut donner, et il va donner. Et dans la Bible, il est dit que celui qui donne...
Dieu vous le rendra.
Exactement.
Ah non, ça c'est
autre chose. C'est Massias, effectivement, on l'écoute.
Non, mais il y a une chose tout de même, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de marquer aussi, de marquer l'histoire, de faire partie de ces grandes familles, je vois par exemple les Vanderbilt, les Morgan, les Carnegie, toutes ces grandes familles veulent marquer dans la pierre, donc ils veulent avoir la Tower, la Rockefeller Tower, la Trump Tower, marqué dans la pierre, qu'ils aient une plaque qui rappelle leur haut fait et combien ils ont servi la société américaine.
Bien sûr, mais je pense quand même que l'aspect religieux est déterminant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie peur dans ces familles d'être condamnées et de donner un mauvais exemple à l'ensemble du pays. Hein. Et donc, il faut donner pour acheter en quelque sorte le droit au paradis.
L'accès au paradis. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la fortune des Rockefeller?
Elle est partout. Hein, quand vous allez aux États-Unis, le nombre d'universités, de bibliothèques, de musées qui sont financés.
C'est l'héritier Rockefeller, il a combien aujourd'hui?
Il y a des gens à épouser là aujourd'hui.
Voilà, par exemple.
Oui, je pense qu'il y a quelques héritiers à épouser. Parce que Rockefeller aussi va penser à la suite. C'est-à-dire qu'il a très très peur que ses enfants et ses petits-enfants dilapident la fortune. Et donc, il va créer des trusts, des trusts qui vont garantir que la fortune ne soit pas dilapidée. Et c'est une grande angoisse aussi des milliardaires, c'est que les enfants et les petits-enfants fassent n'importe quoi.
D'ailleurs, on n'en parle pas assez de ça.
Mais des pauvres, vous dites les pauvres.
C'est terrible, Stéphane, imaginez vous milliardaires. Et peut-être un jour, vous finirez multimillionnaire. C'est terrible.
Non, il y a peu de gens. Non, mais j'ai connu le fils,
Rockefeller. À Versailles.
À Versailles, un monsieur charmant, David Rockefeller, il s'appelait. Et il avait près de 100 ans. Il est venu revisiter.
En Twingo, en toute simplicité. Quelqu'un de charmant.
Mais absolument adorable et très content de faire profiter à la France et au patrimoine français de sa générosité.
Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a conservé la fortune. La fortune n'a pas été dilapidée parce que le père Rockefeller avait pensé à tout.
Ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire de la société, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Est-ce qu'il continue à travailler? Parce qu'on sent que le patriarche a établi la fortune et ensuite les enfants ne font que la maintenir.
Ils bénéficient de la rente. L'argent est placé dans un trust. On va créer une génération de rentiers. C'est pour ça que les Américains et Jefferson notamment avaient très peur de cela, avaient très peur de créer aux États-Unis un monde de rentiers qui serait un peu le modèle de la vieille Europe, ce qu'on a connu, la noblesse européenne. Et on voit que ces familles-là, aujourd'hui...
Elles ne
produisent plus grand chose. Enfin, elles investissent, l'argent est investi par le trust, mais ils vivent des intérêts du trust qui sont, comme vous l'avez dit, extrêmement importants.
Pour finir, Romain Huret, est-ce qu'on parlait tout à l'heure de l'American Dream, si bien prononcé par Stéphane tout à l'heure, est-ce que c'est encore possible une trajectoire comme ça aujourd'hui aux États-Unis?
Oui, absolument.
C'est vraiment le pays où toujours tout est possible.
On l'a vu, alors moins dans le pétrole sans doute, et les dindons,
mais dans le high-tech, Bezos,
Zuckerberg qui vient d'une famille aussi assez modeste, ils vont connaître les mêmes trajectoires fulgurantes. Vous avez rappelé à 25 ans, il est milliardaire et on voit Bezos, Zuckerberg et d'autres qui vont faire aussi les mêmes.
Ce qui est bien, c'est que là-bas, il y a le divorce qui
s'enchaîne.
Ça répartit.
C'est une autre forme de répartition.
Madame Bezos, c'est parti avec.
Effectivement. On n'avait pas Jason Rockefeller avec nous aujourd'hui, le petit-fils.
Romain Huret.
Mais on avait Romain Huret, c'était super. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes directeur d'études à.
Le HESS.
Le HESS que je ne réussirai jamais à prononcer.
École des hautes études sociales.
En sciences sociales. Ça va, Stéphane, on n'est pas tous cultivés comme vous.
Bon. Vous n'êtes pas une cagole quand même.
À suivre dans Historiquement Vôtre, une main sur le cœur, l'autre sur l'estomac, Olivier Pouls arrive. Pour vous faire découvrir l'origine, souvent insolite, des recettes que vous aimez mais dont vous ignorez l'origine. Olivier Pouls, qui est quand même le seul type en 2020 qui parle comme Jean Reno dans Les Visiteurs.
Et alors le mélange entre l'escargot et le lard fondu, c'est une pure merveille.
Il parlait de quoi dans cet extrait ?
Et pas de ce qu'il venait de prendre pour le goûter.
Ah non ? C'est vrai que c'est l'heure du goûter. Oh, mon petit prince.
Qui est votre petit prince Pouls ou moi ?
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, tous ceux d'entre vous qui aiment l'histoire, tous ceux qui aiment rire aussi, et encore tous ceux qui n'écoutent Europe 1 l'après-midi que pour se donner des frissons coupables en écoutant la voix suave de Mathieu Noël.
Oh oui.
Chaque après-midi donc, de 16h à 18h, on vous fait revivre les grandes pages de l'histoire au travers de personnages hauts en couleur.
Oui, oui Stéphane. Et justement, l'heure est venue de retrouver en chair et en os, quoique plus en chair qu'en os, un personnage lui aussi haut en couleur. On dit souvent, Stéphane, que vous avez un don pour raconter les histoires. Mais que dire alors des talents de conteur de notre expert gastronomique Olivier Pouls. Stéphane, vous avez commenté le mariage de Kate et William. Lui, il a commenté un mariage autrement plus chic.
Je vous convie à un mariage aujourd'hui. Monsieur Saucisse de Morteau va épouser Madame Lentiverte du Puy. Lieu du mariage, une cocotte en fonte. Alors le premier invité arrive, alors c'est le beurre. J'ai les témoins. Un verre de vin blanc.
On a retrouvé vraiment la qualité de Léon Zitron.
Quel beau mariage.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour. Alors vendredi dernier, vous nous parliez de cacao, qui déjà à l'époque, quand il a été importé, valait cher. Vous nous avez d'ailleurs apporté du chocolat. Aujourd'hui, puisque nous parlons des milliardaires, vous voulez nous parler de caviar, autant dire que j'ai hâte.
Qu'est-ce que vous avez dans votre poche ?
Un échantillon.
Oui. Et du beluga, s'il vous plaît, Stéphane ne tolère que celui-ci.
Si vous vous attendez à ce que je sorte une boîte de caviar, eh bien, minimum, les amis, c'est peine perdue. Je vais peut-être monter au dernier étage ici et demander à la direction s'ils peuvent me faire une petite rallonge ou en tout cas financer peut-être la dégustation de cette chronique.
Ça serait longtemps que vous n'êtes pas allé à la cantine.
Il y en a tous les deux jours.
Ah bon ? Ben oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de milliardaires et probablement un certain nombre des personnages dont vous parlez mangeront, goûter le caviar, comme vous d'ailleurs, mon sacré Mathieu Noël.
Ça m'est arrivé, effectivement, quand il m'a été offert, je précise.
Ben parce que le caviar a pratiquement toujours été un mets de grand luxe. Alors, on consomme des œufs de poisson depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, mais les œufs d'esturgeon, parce que le caviar c'est l'œuf d'esturgeon, ça remonte au 9e siècle et ce sont les Perses qui s'en font une spécialité.
Déjà.
Il n'y a pas de recette, c'est extrêmement simple. On prélève la poche d'œuf dans l'esturgeon qu'on a pêché et qu'on a abattu. Ensuite, on va le passer au travers un tamis. On va juste le saler, laisser maturer un petit peu. Et tac, le caviar.
Et c'est fini,
est prêt.
C'est ça qu'on mange.
Et c'est fini. Alors, les tsars, évidemment, s'en régalent. À la cour de Russie, c'est un mec qui devient extrêmement populaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait le goût, la qualité d'un caviar, c'est pas la mer dans laquelle, ou la rivière dans laquelle le poisson a été pêché, c'est la variété d'esturgeon. Et on utilise aujourd'hui une dizaine de variétés d'esturgeons pour faire des caviars différents. Vous parliez du beluga.
Il n'y a pas d'esturgeon sauvage.
Alors, il y en a plus, je vais y venir.
Ah, pardon.
Je vais y venir. Mais vous parliez du beluga, il y a de l'ossiètre, il y a du bahéry. C'est ça qui donne en fait les différents types de caviar.
On en fait dans le sud-ouest de la France maintenant.
Ben oui, parce qu'en en fait, il y en avait à l'état naturel.
Oui,
il faut dire
sûr.
Qu'on a pêché des esturgeons.
Ils ont passé où
On les a tous pêchés.
Parce pour
que,
le caviar
Ah ben oui, parce que le problème, c'est que le caviar, c'est tellement recherché au 18e et au 19e siècle qu'on va pratiquement vider la mer. Il y a une petite anecdote intéressante. À New York, on trouve des esturgeons dans l'Hudson River. On va les pêcher comme des dingues, à tel point qu'on trouve, dans les années 20, dans les années folles, dans les bars à New York, on vous donne du caviar comme des cacahuètes, parce que comme c'est salé, ça pousse à la consommation. Et c'est la période folle du caviar. Malheureusement, l'homme n'étant pas très raisonnable, il va vider les océans et les rivières des esturgeons, à tel point qu'en 2008, on est obligé...
Je vois qu'Emeric Caron a quand même eu une influence sur vous, et c'est pas mal, vous êtes en train de changer.
À cause de la folie humaine, on n'a plus de caviar sauvage. Bah oui, parce qu'à partir de 2008, on est obligé d'interdire la pêche des esturgeons sauvages. Mais fort heureusement, on a trouvé une astuce.
Quelle est l'astuce ?
À faire de l'élevage.
Ah.
Et de l'élevage, ça démarre dans les années 2000. Mmh. Ça démarre
c'est
en France.
Récent, en France, oui.
En Aquitaine, par exemple. Oui. Dans la Loire, il y en a aujourd'hui. Mais aussi en Chine, aux États-Unis, en Italie, dans beaucoup de pays, on se met à élever des esturgeons.
Chez moi, j'ai la chance d'avoir une petite mare.
Oui.
Est-ce que j'ai le droit d'acheter un esturgeon, de le mettre là-dedans ? J'attends et ensuite, hop quelques années plus tard, je l'ouvre. Ah non, bah, ça, c'est pas le droit.
Vous pouvez toujours tenter le truc. Ce qui est un peu compliqué, c'est que l'esturgeon, c'est un poisson qui est un peu compliqué à élever.
Et surtout, si elle est seule, votre femelle esturgeon, elle ne risque pas d'avoir des œufs.
Alors, merci, Stéphane, de nous rappeler aux élémentaires de Dame Nature.
Il faut déjà trouver la bonne source d'esturgeon. Ensuite, il faut trier et n'avoir que les femelles. Et alors, le problème de l'esturgeon, et c'est pour ça que le caviar reste un mets assez rare et assez cher.
On ne mange pas le poisson.
Le poisson, pas tellement d'intérêt, on en fait des espèces de rillettes, mais surtout, on abat évidemment la femelle pour prélever les œufs, mais ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'entre 5 ans pour un Bahéry, 13 ou 14 ans pour un Beluga.
C'est ça qui fait le prix, en fait.
Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez nourrir et attendre passer pendant 14 ans devant votre esturgeon, en disant « Toi, un jour, tu vas me donner du caviar. » 14 ans, c'est un peu long quand même. Et il ne faut pas qu'il lui arrive malheur entre-temps.
Bah ouais.
Donc, c'est évidemment très difficile. Alors, en France, on a beaucoup progressé sur la qualité du caviar d'élevage, qui n'était pas très bon au début, on a beaucoup tâtonné.
Il m'est arrivé une fois de goûter le caviar français.
Et
une fois.
Et cocorico, il est très bon.
Il est bon, mais probablement aujourd'hui, il y a dans le monde des caviars qui sont encore meilleurs.
Notamment,
personnellement, je n'ai pas d'éléments de comparaison.
Il en a, et en Chine, je crois que le caviar chinois est bon.
Il y a des très très bons caviars chinois, et notamment des belugas chinois. J'ai eu l'occasion d'en goûter, d'aller voir les pêcheries là-bas, c'est assez spectaculaire.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, pour cette chronique sans chichi aujourd'hui.
Écoutez, vous parlez des milliardaires, peut-être que demain on va descendre d'un étage quand même.
Oui, demain on va parler d'une recette à base de patates. Merci Olivier Pouls.
Europe 1.
Il est à cette émission ce que la cerise au kirsch est au kouglof. Une petite gourmandise supplémentaire qui peut faire très mal si on oublie d'enlever le noyau. 99% vrai, c'est le portrait presque vérifié. Bon, il y a 1% de conneries de Mathieu Noël, c'est à suivre.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous l'avons vu, Nicolas Fouquet était riche. Rockefeller était très très riche. Mais le personnage que vous allez évoquer maintenant, Mathieu, était insolemment riche.
Oui, alors là, chers auditeurs, nous entrons dans des chiffres proprement astronomiques, puisque selon le magazine Forbes, la personne dont je vais vous parler maintenant était plus riche que Stéphane Bern. Et si, forcément, ça donne le tournis. Je vous parle cet après-midi de celle qui fut longtemps la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt, héritière de l'Empire L'Oréal. Fortune estimée en 2017, 36,1 milliards de dollars. Magot qui, évidemment, suscitait bien des jalousies.
Salope !
Non, je vous en prie, Stéphane. Ah non ! Un peu de respect pour la mémoire de Liliane, qui nous a quitté en 2017, à 94 ans.
Vous osez prendre des extraits de
et surtout, on ne sait pas de qui vous parlez. Laissant ses héritiers inconsolables, jusqu'au moment où ils sont passés chez le notaire.
Bon, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Déjà, Stéphane, attention de ne pas confondre Liliane et Ingrid Bettencourt, enlevée par les FARC en Colombie. J'ai personnellement commis cette erreur hier soir. Résultat, 17 pages à la poubelle d'un portrait pourtant admirable qui rendait vraiment hommage à la force de caractère de la captive et à la beauté de la jungle amazonienne aussi. Passons. Liliane Bettencourt, donc, femme d'affaires héritière de son père Eugène Schueller, fondateur du groupe L'Oréal. Liliane naît à Paris en 1922. Son père a connu le succès en commercialisant les premières teintures capillaires, par exemple, le blond vénitien reflet marron glacé avec effet boucleur, qui fait le bonheur de Stéphane, c'est lui, c'est Papa Schueller. Le shampoing Dop qui ne pique pas les yeux et évite les nœuds, c'est lui aussi. Bref, la petite Liliane se réveille chaque matin dans des draps de soie et une cuillère en or dans la bouche.
Ça va faire mal quand vous réveillez.
Il ne faut pas se tromper. Bon. Mais son père a conscience qu'avoir trop d'argent n'est pas bon pour sa fille. Stéphane Bern, dont les parents ne roulaient pas sur l'or, vous le confirmera, ne pas avoir trop d'argent, c'est le meilleur moyen d'avoir la niaque, d'en gagner beaucoup plus tard. Or, Stéphane, je sais que vous êtes assez pudique là-dessus, mais vous n'êtes pas issu d'une famille très riche.
On déféquait là où on était, et puis voilà.
Bon, bon, ne n'exagérez pas non plus, Stéphane.
Non, quand même, ne
noircissez pas le tableau. Bref, lorsqu'elle a 15 ans, son père envoie Liliane à l'usine d'Aulnay-sous-Bois pour coller des étiquettes sur les bouteilles de shampoing pendant ses vacances. Puis, elle effectuera même des stages chez L'Oréal.
Va faire des photocopies, beaucoup de photocopies.
Elle épouse par la suite André Bettencourt, homme politique qui deviendra notamment ministre des Affaires étrangères. Elle l'accompagne alors dans ses déplacements ministériels, ce qui lui permet de découvrir les merveilles de la Chine, entre autres. C'est lors de ce voyage en Chine que Liliane fit la rencontre du président Mao Tse-tung. Elle déclara ensuite à son propos « Il m'aimait bien, peut-être un peu trop ». Quelques mois plus tard, Liliane et André ont une fille, Françoise. Coïncidence ? Loin de moi l'idée d'amorcer une nouvelle polémique, c'est une famille qui en a connu beaucoup. Quelques années plus tard, à la mort de son père, Liliane prend les rênes de L'Oréal, entreprise qu'elle connaît mieux que personne, puisqu'elle a toujours fait partie de sa vie, ainsi que les préceptes enseignés par son cher papounet qui résonnent encore dans son cœur.
J'adore trois choses. J'adore mon pays, j'adore Jésus et j'adore rendre les gens riches.
Elle devient au fil des années la femme la plus riche du monde, on l'a dit, de fortune estimée. 36,1 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Autant dire qu'elle n'a jamais connu ce que j'appelle l'effroi du mois de septembre. Vous savez Stéphane, quand vous rentrez de Palavas et que vous trouvez le vilain courrier du Trésor public.
Excusez-moi les impôts, mais ça vous empêche pas de dormir, de nous demander de l'argent qu'on a déjà dépensé?
Elle est décorée en 2001 chevalier de la Légion d'honneur pour sa fondation Bettencourt-Schuller qui attribue des fonds à la recherche, à la culture et à l'action sociale. Quelques années plus tard, après la disparition de son mari, commencent les années de controverses. Les affaires Bagné-Bettencourt et Woerth-Bettencourt déchaînent les foules et la presse française. Comment résumer avec simplicité et clarté ces affaires casse-tête ? Disons que lorsqu'elle invitait certains amis à dîner au resto, elle commandait sans compter, ma Liliane. Suite à ça, les plus gourmands et véreux d'entre eux ont été accusés d'en abuser. En vrac, un ami qui passe son temps à se faire payer des coups, une fille qui tente de mettre une maman sous tutelle, un avocat qui fait des combines, comme disent les jeunes, dans le dos de sa cliente, un majordome qui se croit dans Secret Story et qui cache des micros partout, des patrons et des hommes politiques qui passent leur temps à venir prendre le thé à Neuilly-sur-Seine sans raison évidente, et du shampoing démêlant pour faire court.
Les gens sont cons, faut en profiter.
Alors oui, Liliane a peut-être commis certaines imprudences sur la fin de sa vie, mais bon, elle s'en est quand même mieux tirée que Fouquet. Elle a laissé L'Oréal au sommet et on murmure que ça s'est joué à pas grand-chose, que son sens du marketing est pour beaucoup dans le succès de la marque. En effet, lors de l'appel d'offres pour la création du slogan mondial de L'Oréal en 99, le conseil d'administration du groupe aurait dans un premier temps retenu le slogan proposé par un jeune publicitaire aux dents longues.
Sans argent, on ne vaut pas un clou.
Et finalement, Liliane a tranché en faveur de « parce que vous le valez bien », un choix plus fédérateur et qui permet de ne pas se mettre à dos les consommateurs de gauche qui, eux aussi, parfois, se maquillent. Bravo Liliane.
J'ai vu tous les 1%.
Vous avez vu ? Il y en avait peut-être 34 aujourd'hui.
Là, c'est monté à 3 ou 4% de n'importe quoi. Merci Mathieu, c'était très drôle en tout cas.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tout à l'heure, Stéphane, vous avez eu l'amabilité de me comparer à une cerise au kirsch qui couronnerait le gâteau de notre émission. L'image était belle, mais l'heure est venue pour moi de vous retourner le compliment. Si je suis la cerise au kirsch qui surplombe le gâteau d'Historiquement Vôtre, alors vous êtes le magnum de Dom Pérignon, cuvée grand siècle, que l'on ouvre au-dessus de la pyramide des flûtes de champagne dans un mariage de qualité. Oui, vous venez de sauter. Stéphane, c'est votre rubrique qui vient parachever ces deux heures de découverte avec chaque jour une découverte très pragmatique qui vous permettra de briller dans les dîners. Faites entrer le mot de la fin, s'il vous plaît.
Alors Mathieu, est-ce que vous avez déjà tenu un blog ?
Jamais, je suis trop vieux pour ça.
Je dis ça parce que c'est la journée mondiale du blog. Ça tombe bien parce que, en fait, je voulais pas vous en parler.
Ça tombe bien. C'est souvent le cas avec les journées mondiales.
Oui, exactement. Mais c'est également la journée de la noix.
Et ça, vous, ça en revanche, vous
ah oui,
voulez
oui,
m'en parler.
Oui, parce qu'il y a une expression aussi dévalorisante qu'amusante. À la noix. Pourquoi dit-on à la noix pour désigner, par exemple, une chronique à la noix ? Vous voyez la mienne, par exemple, une chronique
c'est
à la noix.
Ça n'a pas de sens.
Non, ça veut dire que ça a peu de valeur. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas terrible, que ça ne suscite guère d'enthousiasme.
Mais c'est très bon, la noix, c'est plein d'oligo-éléments.
Eh bien, justement. Essayons de comprendre.
Essayons.
C'est au XIVe siècle que l'on trouve les origines de cette expression. On utilise alors à la nèfle pour désigner des choses sans intérêt. La nèfle étant un fruit comestible du néflier, originaire du Caucase et de l'Arménie. D'ailleurs, dans le langage familier, on dit des nèfles comme pour dire des clous. À la nèfle va vite être remplacé par à la noix pour une raison surprenante. Quand on faisait une salade, on utilisait du cresson à linois. Une plante au goût âcre dans le but d'en rehausser la saveur. Mais sa saveur, justement, était piquante et amère. Cette plante est vite devenue synonyme de mauvaise. Le cresson à linois devenait donc à la noix.
Ah.
Et on a même été jusqu'à pousser le vice à utiliser l'expression à la noix de coco.
À la noix, c'est un langage peu soutenu. On imagine mal Proust écrire à la noix, par exemple.
Ah, je confirme, vous imaginez mal. Citons Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu. Je le cite de mémoire, mais avec ma feuille.
Ah oui, c'est mieux quand même.
Ce n'est pas à nous qu'il faut faire des boniments à la noix de coco. Bon, c'est
c'est pas forcément le meilleur.
C'est vraiment la plus belle phrase. Pour une fois, une phrase concise de Proust.
Oui. C'est pas la meilleure de la recherche. Mais bon, sachez, cher Mathieu Noël, qu'il y a tant d'autres aliments dans d'autres pays qui symbolisent quelque chose sans valeur. En Espagne, on dit « ça vaut pas un poivron ».
Faites encore plus mal l'accent espagnol que l'accent anglais.
Je fais très mal les accents, je le sais. Et en Roumanie, c'est l'expression « ça vaut pas un oignon gelé ».
Ah, là, pas de tentative d'accent sur l'accent roumain, on le tente même pas.
Non, c'est pour mes prochaines vacances, je préserve la Roumanie, qui est utilisée. Non, ne me demandez pas plus de précisions sur cet oignon gelé, parce que mon investigation s'est arrêtée là. En tout cas, tout cela est bien ingrat et vous avez raison de protester. C'est ingrat pour la noix. En 2015, des chercheurs néerlandais ont établi que manger 10 grammes de noix par jour diminuait de manière importante les risques de cancer, de diabète et autres maladies neurodégénératives. Donc, je terminerai cette journée à la noix pour vous dire « vive la noix ».
Vive la noix, c'était les derniers mots de Stéphane Bern. Merci Stéphane. Ah non, ne trépassez pas tout de suite. Vous avez bien bossé aujourd'hui Stéphane, plus que quelques minutes avant un apéro bien mérité.
Regardez, ce calice de Saint-Rémy. Il date du 12e siècle.
Mais non, mais Stéphane, encore 3 minutes. C'est la Sainte Ampoule, restons dignes. Et ne mettez pas du pastis dans la Sainte Ampoule, Stéphane. Restons dignes, comme Saint-Louis.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Vous savez tout désormais sur Nicolas Fouquet, Rockefeller et Liliane Bettencourt. Notre spécial « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent » s'achève, oui, mais séchez vos larmes, car historiquement vôtre vient demain pour 2 heures de savoir teinté d'humour en compagnie du plus célèbre des animateurs français, l'élégantissime Stéphane Bern.
Qui, selon la légende, aurait été apporté par une colombe lors du baptême de Clovis, roi des Francs.
Oui, il trafique un peu sa page Wikipédia, mais c'est un type génial.
Lui, il n'a pas de page Wikipédia, mais c'est un collègue formidable. Mathieu Noël sera là demain aussi. Voulez-vous que je vous donne le programme de ce qui nous attend demain, Mathieu ?
S'il vous plaît, mon cher Stéphane.
Demain, normalement, je ne vous apprends rien.
Ah bah, vous savez donner envie de nous écouter.
Non, mais je vous apprends rien parce que c'est la rentrée des classes demain.
C'est l'oubli.
Et pour cette reprise qui fait parfois pleurer les enfants, mais réjouit les parents, nous allons vous proposer la meilleure salle des profs de tous les temps. On va parler de Léopold Mozart, le père de Wolfgang Amadeus, Albert Einstein et Brigitte Macron.
Ah ben, rendez-vous donc demain 16h pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.